Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Halud Mouni.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
La rencontre entre les pays membres du G5 Sahel et les bailleurs de fonds a pris fin le vendredi dernier à Nouakchott sous une note de satisfaction. Les partenaires se sont engagés à mobiliser des fonds pour financer la première phase du programme d'investissement prioritaire de l'organisation pour les trois prochaines années. Nos invités sur ce plateau, Serge Daniel, journaliste écrivain, Boubacar Boukoum, politologue, Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études et de sécurité. Je suis Fatmata Togola.
Le Grand Dialogue.
Avant d'ouvrir les débats, je vous propose un petit résumé des conclusions de cette rencontre avec Siaka Z Traoré.
La principale conclusion de cette rencontre est l'engagement des bailleurs de fonds à mobiliser 2 milliards d'euros, soit plus de 1300 milliards de francs CFA pour les pays membres du G5 Sahel, un montant qui permettra à l'organisation sous-régionale de financer une quarantaine de projets dans les zones frontalières des 5 pays membres. Les premiers projets seront axés sur plusieurs domaines, notamment la construction des routes, l'hydraulique, la gestion des conflits intercommunautaires et la sécurité intérieure, des domaines qui font partie donc de la première phase d'urgence du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel élaboré à cet effet. Pour l'instant, aucune date n'a été retenue pour le décaissement du fonds.
Alors nous ouvrons avec vous, Monsieur Dakono. Quelle analyse faites-vous de cette situation ?
Presque pas de neuf, parce que on l'a peut-être pas dit, ce programme d'investissement prioritaire, il date de 4 ans. La première phase était prévue pour 2015-2017, avec environ plus de 7 000 milliards de francs CFA qui étaient prévus pour les mêmes types de projets, dont des projets structurels, des projets qui avaient lien avec l'infrastructure et des projets ponctuels dans les États membres. Donc, c'est pas nouveau, ce programme d'investissement prioritaire. L'engouement des partenaires également, à travers les promesses qu'on a entendues de Nouakchott, n'est pas nouveau si en soi. Le véritable défi, c'est la capacité d'abord de mobiliser ces ressources au niveau des États, mais également la gestion des fonds qui seront mobilisés. Est-ce que on restera toujours dans le tandem entre le secrétariat permanent du G5 Sahel et les États sur qui va gérer ces ressources mobilisées? Donc ce sont des questions qu'il faut éluder, ce sont des défis auxquels on fera face au cours des prochains jours dans le cadre du financement de ce programme d'investissement prioritaire. Mais avant ça, il est important quand même de rappeler que au-delà des aspects financiers, ce programme d'investissement prioritaire prouve quand même que les États, à travers cette coordination régionale, ont réalisé que le problème n'est pas que sécuritaire, et le tout sécuritaire ne permettrait pas de venir à bout de la menace qui caractérise l'insécurité dans le Sahel.
D'accord. Et vous, Monsieur Daniel ?
Mon point de vue est que ils ont mis un peu, pour moi, la charrue avant les bœufs. C'est vrai que ce que Dakono disait était très important. On a voulu montrer que le tout sécuritaire ne règle pas le problème. Il y a des problèmes de développement. Mais il y a un problème de fonds, madame. Il y a des fonds qui avaient été déjà mobilisés pour lutter contre le terrorisme sur le terrain, mais les fonds n'ont jamais été débloqués quasiment. Le véritable problème, de mon point de vue, c'est d'abord d'obtenir de la part de l'ONU un mandat clair et fort pour pouvoir se déployer sur le terrain. Sinon, ce sera la poudre de perlimpinpin. En plus, les ONG, les intentions, vous savez comment ça se passe, c'est pas du cash flow qu'on donne, c'est de l'argent déjà remis à des ONG qui vont être comptabilisées dans le cadre du décaissement. Et donc, je ne trouve pas que les choses se soient bien agencées. Excusez-moi d'être sur ce point un peu direct.
D'accord. Alors, Monsieur Boukoum, qu'en dites-vous ?
Oui, je partage tout à fait l'avis des deux camarades qui sont sur le plateau. Et en plus de ça, je voudrais dire que le G5, déjà, dans sa conception basique, pour moi, c'est déjà un échec, parce que le Sahel ne se résume pas à 5 pays. Dans les analyses que nous avons eues à faire, le Sahel, c'est quelque part 13 pays, y compris le Nigeria et d'autres pays. Et aujourd'hui, avec le G5, ça tire parce que effectivement c'est pas le Sahel. Et comme M. Dakono l'a dit, le problème il n'est pas du tout totalement militaire. Il est un problème de développement à la base, et les conflits communautaires qui se dégagent de ce point de vue, c'est aussi dû quelque part à la mauvaise gouvernance de nos États. Et à ce niveau, je pense que la mauvaise gouvernance, plus, comme M. Serge l'a dit tantôt, où sont partis les fonds, comment les fonds sont gérés, tout ça, c'est impliqué l'un dans l'autre. Et à la base, nous qui sommes directement concernés par ces conflits, je ne vois pas de visibilité par rapport à nos États eux-mêmes. Quel chemin ils ont exactement pour juguler ce problème? Quelle est leur appréhension? On ne comprend même pas comment nos politiques et nos chefs d'État appréhendent même cette crise. Donc, tout le temps, il dit que oui, les Nations Unies, à travers le G5, prétendent nous accompagner ou donner des moyens financiers, mais finalement, pour avoir quels résultats? Je me pose encore des questions par rapport à ça.
D'accord. Alors, M. Dacono, au regard de ces 4 années d'existence, comment cette coordination évolue-t-elle jusque-là?
La coordination entre les États?
Oui.
Mais elle évolue, il y a la volonté politique, certes, mais elle évolue suivant les commandements du terrain. Vous savez, chaque État a eu à faire face à ses défis internes, à ses priorités, à son agenda. Donc ce sont ces éléments-là qui commandent un peu les besoins de coordination. Si l'on prend l'exemple, je pense qu'on va y parler, parce que vous l'avez évoqué, de la force conjointe, on voit que, à titre d'exemple, c'est le fuseau centre qui est le plus animé au niveau des opérations de cette force conjointe, parce que dans l'agenda des 3 États qui forment ce fuseau centre, la menace, elle est là, elle existe, elle est réelle, et ils ont besoin d'agir rapidement. Donc finalement, la coordination, c'est beaucoup plus sur les impératifs du terrain que la volonté politique qui est là et qui se manifeste déjà par la création de ce G5 Sahel. Je veux peut-être, si vous le permettez, rebondir sur ce que beaucoup m'a dit, oui, tout à l'heure, sur le fait que le Sahel, c'est au-delà des 5 pays. C'est une évidence, c'est vrai, on partage ce fait que le Sahel va au-delà des 5, mais il faut bien commencer quelque part. Et ces 5 pays sont un peu les pays du champ par rapport à la menace. Et je pense que c'est pas mauvais de commencer avec 5 tout en gardant l'objectif que la menace, elle, ne peut être confinée au sein de ces 5 États de cette région.
Il y a plusieurs malentendus, si je peux me permettre de prendre la parole sans votre
allez-y
autorisation. Merci, madame. Ce que disait Dacono, c'est qu'en fait, il y a des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina qui estiment que la menace est dans le Liptako-Gourma, c'est-à-dire que la crise, c'est là, essentiellement, entre ces 3 frontières. Mais vous avez le Tchad qui dit, mais attention, mais si vous faites ça, qu'est-ce que moi je deviens? Il faut savoir que des terroristes viennent aussi de chez nous. Les Mauritaniens disent, mais c'est évident que des terroristes viennent aussi de la forêt du Ouagadou. Donc on ne peut pas concentrer les actions sur ce centre-là. Donc ils ne sont pas d'accord sur la stratégie. Mais ne soyons pas si pessimistes que cela, il y a eu 1 ou 2 exercices. Mais la photo que moi j'aimerais revoir très rapidement, c'est d'arrêter de voir le siège, le quartier général du G5 ici à Bamako, c'est-à-dire 600 kilomètres plus loin de là où... de là où il était, alors qu'il fallait monter à 600 kilomètres plus. C'est comme si les retraits stratégiques, c'est pas seulement nos armées qui le font, mais le G5 aussi le fait.
D'accord. Oui, alors ?
Non, je partage l'avis de M. Serge. Là où je dis que le G5 pose problème, parce que Serge l'a tout le temps évoqué, vous prenez la Mauritanie, c'est un cas. Le Nigeria, c'est quand même un axe central où le terrorisme vit beaucoup.
Et sur 4 habitants de la CEDEAO, 3 sont nigériens.
Voilà. Donc c'est aussi une puissance économique et militaire. Donc c'est inimaginable qu'on conçoive un tel dispositif pour combattre le terrorisme et que le Nigeria n'en fasse pas partie par rapport à tout ce qui se passe. Donc quand vous excluez le Nigeria, oui, c'est bien beau de commencer par quelque part, je suis entièrement d'accord, mais aujourd'hui nos États, à travers les Nations Unies, à travers l'unité africaine, je suppose qu'on nous a donné quand même un cordon, un filon qui nous permette de parler de l'UMOA, de la CEDEAO et toutes ces machines qui sont là, et finalement pour faire quoi? Si la CEDEAO ne peut pas prendre une décision par rapport à un problème qui touche tous ces États, l'UMOA ne peut pas s'impliquer financièrement. L'Union africaine, on ne l'entend même pas parler aujourd'hui. C'est quand même les Nations unies qui disent on va vers le G5. Parce qu'à un moment donné, de mon point de vue, c'est que la France et ses partenaires, ayant plus ou moins échoué sur le terrain, ont voulu lui renvoyer la balle pour dire bon, occupez-vous de vos oignons. Essayez, vous, au lieu que nous mourions pour vous, il est temps que vous aussi vous preniez les armes. On concocte le G5 qui, pour moi, ne résout pas l'équation. Il faut maintenant, si les États européens pouvaient mettre plus de pression par rapport à la gouvernance, par rapport à une certaine visibilité par rapport à comment les fonds sont gérés et amener nos États quand même à les libérer sur le plan économique un peu, parce que le problème du CFA est là, la pression de ces États sont là. Aujourd'hui, nous avons quel genre d'État qui puisse avoir une certaine autonomie pour avoir une vision politique claire et une vision financière très claire. Et les enjeux géopolitiques sont là. Tout cela fait que c'est des facteurs où nous, en tant que Maliens, on est très mal à l'aise de voir que nos dirigeants ne dégagent pas une politique claire.
Mais selon vous, quels sont ces enjeux politiques-là qui nous freinent?
Vous savez, l'histoire de l'amunissement et de l'intervention de la France, vous savez quand même que ce n'est pas pour nos beaux yeux que la France...
Comment ça?
Non, c'est très clair qu'en 2014, Hollande avait créé la compagnie des mines de France, qui avait pour objet de venir exploiter l'or au Mali. Ça, c'est un deal qui était là, que nous connaissons.
En 2014, la compagnie... L'intervention, c'était 2012.
Oui, on comprend. C'est l'un dans l'autre. Le business reste le business. Parce que, quand même, quelque part, la France n'a pas eu l'autorisation d'aller à Kona avec tout ce qu'il faut. C'était un jeu. Voilà. Après, ils ont rattrapé au niveau du Parlement français pour corriger le tir. Et voilà, c'est des intérêts. Juste, oui, on pourrait dire que Diankunda l'a appelé, mais Diankunda n'était pas aussi localement chez nous, légitime et tout ça. Donc, il y a des problèmes. Maintenant, une fois que cette attaque a eu lieu, le business de la France, en réalité, qui était les ressources minières, ça n'a pas marché non plus. Donc, à un moment donné, nous, on est coincés. Ils vont venir investir autant les milliards pour défendre le Mali en contrepartie pour avoir quoi. Donc, les jeux ne sont pas clairs. Il faut, à un moment donné, que nos dirigeants jouent la carte géopolitique correctement.
Au propos de M. Bokoum.
Voilà. Je vois qu'il a brossé quand même un ensemble de questions et de dynamiques. Et je crois que la plus importante de ces questions, c'est la coordination entre tous ces acteurs et qui peut faire quoi. C'est une question importante et je doute qu'on puisse terminer cette question ici. Mais il y a deux choses qu'il faut appréhender. La première, c'est que le fond du problème de toutes ces initiatives, que ce soit le G5 ou autre, c'est la question d'argent, la question de financement. Ça rappelle que depuis plus de 10 ans, on parle de l'architecture africaine de paix et de sécurité, et l'un des piliers, sinon le plus important pilier de cette architecture, c'est le fonds africain pour la paix et la sécurité, qui n'a jamais pu être financé. Et les Africains sont toujours obligés d'aller chercher le financement ailleurs. Le temps qu'on puisse mobiliser les ressources, la menace, elle, évolue, se transforme et connaît une expansion géographique plus importante qu'il n'était prévu par les Africains à l'époque. Donc, en fait, il y a cette dimension de pouvoir financer les initiatives africaines suivant l'agenda et suivant l'analyse que les Africains eux-mêmes ont fait du problème. Ce problème s'est transposé de l'architecture africaine de paix et de sécurité. Quand on l'analyse, on va comprendre toute la difficulté de coordination entre la CEDEAO et l'organisation continentale qui est l'UEA, bien entendu. Mais au demeurant, c'est la question de financement de ces initiatives-là.
D'accord.
Notre problème est un problème de gouvernance, si je puis m'exprimer comme ça, madame. Le problème essentiel de nos pays, c'est un problème de gouvernance. Nous sommes mal gouvernés. Nous gérons mal le peu que nous avons. Prenez par exemple, j'étais à Doha récemment, et on me faisait comprendre qu'en 1973, le Gabon était plus riche que le Qatar. Mais le Gabon aujourd'hui, par rapport au Qatar, ce n'est pas possible. Nous avons un problème de gouvernance. La deuxième chose, c'est que lorsqu'il y a des réunions comme celle qui s'est tenue récemment en Mauritanie, ce qui serait bien, c'est d'associer les sociétés civiles. Nous avons des sociétés civiles très faibles ou qui sont plutôt, qui ont des rapports incestueux avec les gouvernements, si vous m'exprimez, si vous me permettez l'expression. Donc ce qui fait qu'on n'arrive pas à vous parler du problème de financement, mais je suis quand même désolé, on peut quand même, le Ghana, qu'est-ce que le Ghana est en train de faire aujourd'hui? Le Mali est le deuxième ou le troisième pays producteur d'or au-dessus du Sahara, je pense.
Après officieusement, mais officiellement, on est les premiers.
On est les premiers, donc.
Avec 16 000 d'or.
Nous avons les moyens. Je pense que je ne vais pas taper là-dessus parce qu'on nous écoute, on en reparlera hors micro. Mais il faut qu'on gère correctement nos pays. C'est valable pour les autres pays, madame. Donc je pense que c'est bien de vouloir l'autre. Il y a autre chose qui me paraît important. Vous savez qu'à une réunion ici de Bamako, les ministres du G5, des Affaires étrangères et de la Défense, ont créé un fonds fiduciaire. Parce qu'il ne faut pas croire que tout le pognon qu'on nous donne, on veut nous laisser gérer ce pognon. Ce n'est pas vrai. Par exemple, il y a un quiproquo terrible aujourd'hui à propos au sujet des 100 milliards donnés par l'Arabie Saoudite. Parce que la France dit, moi, je vais vendre le matériel. Les Africains disent, non. Ça, c'est notre pognon, on le met ensemble. Donc, il y a blocage même là, si vous voulez. Donc problème de financement, c'est vrai. Mais si vous êtes sérieux, il faut montrer que vous pouvez gouverner dans la transparence et la justice.
Et vous, M. Bokoum, où se situe le blocage par rapport à tout ça?
Non, je suis entièrement d'accord avec M. Serge qui parle de la gouvernance. Je voulais, quand M. Dakone a parlé du financement, je dis, l'économie mondiale, c'est quoi? C'est les réserves. Et qui connaît le Mali aujourd'hui? Nous avons des réserves. Et où sont les économistes qui sont capables de dire aujourd'hui, par exemple, je prends une ville comme Kayes, comme ils disent qu'il y a telle teneur d'or dans tel espace et qu'une banque ne va pas lever les fonds. Comment est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'on n'a pas d'État sérieux en face. Les ministres des Mines ne savent même pas quelle est la quantité d'or qui sort de notre territoire. Donc, aucun contrôle, aucune analyse, aucune négociation sérieuse. Je vous donne juste un exemple avec Randgold. Randgold, qui, si j'ai bonne mémoire, en 2012, dans ses rapports, dit qu'ils ont 10 milliards de dollars US liquides dont ils n'ont même pas besoin et ils seront capables d'aller dans n'importe quelle mine et d'aller l'exploiter. Pendant ce temps, le Mali ne sait même pas qu'est-ce qui se passe dans le conseil d'administration de Randgold.
Est-ce qu'il n'y a pas de grève d'ailleurs dans les mines?
Voilà, c'est un souci. Donc, c'est juste de la gouvernance. Si on reprend aujourd'hui le statu quo de 20-80, aujourd'hui le Mali peut amener la tendance avec le processus de la décentralisation à un taux plus intéressant, où au lieu de négocier avec des multinationales qui sont logées dans des paradis fiscaux, qui sont en train de faire de la rétention et de la dissimulation de la richesse, nous pourrons aller sur des bases plus claires en traitant avec des États sérieux, non voyous. Voilà, ça c'est des approches que
oui,
les États
monsieur,
peuvent
monsieur
faire.
Okay,
je crois qu'on a dit la même chose.
Tout à fait.
Le problème c'est le financement. Et Serge et beaucoup ont rappelé pourquoi c'est le problème de financement. Donc oui, on est d'accord. Peut-être on peut passer à l'autre problème qui, à mon sens, c'est finalement l'impression qu'on a perdu beaucoup de temps. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'attention est focalisée sur la force conjointe du G5 Sahel. On a l'impression que le programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel est une solution face au problème. Mais ce n'est pas nouveau, comme je l'ai dit au début du propos. Et même la force conjointe du G5, ce n'est pas nouveau dans la mesure où en 2012 jusqu'en 2013, ce qui était proposé par les Africains, c'est justement une force africaine qui serait adossée au chapitre 7 des Nations Unies, donc sous financement des Nations Unies. Et après plusieurs années d'exercice de la MINUSMA, on se rend compte que ce n'est pas la solution idoine face au problème. Donc on a perdu pratiquement 5 ans. Entre-temps, la menace a grandi. Entre-temps, la menace s'est propagée presque partout dans la région.
D'accord.
Et il faut décomplexer nos rapports. Je ne vois pas pourquoi ce sont toujours les autres qui doivent nous aider à nous en sortir. Prenez la force d'attente, on parlait de la force africaine tout à l'heure. Tous les projets, tous les programmes que vous avez, la Union africaine, sont financés par les étrangers. Mais c'est normal qu'ils aient un droit de regard. Moi, je dis toujours que c'est une question de rapport de force et qu'on peut imposer ces rapports de force. Vous parlez d'Hollande. Il y a quelques années, il s'est rendu à, comment il s'appelle, une tournée sous-régionale africaine, et il s'est rendu en Angola. Vous savez qui a été l'accueilli? Le ministre des Affaires étrangères de l'Angola. Mais parce qu'il y a des rapports de force, si vous voulez. Il faut arrêter de penser que nous sommes dans une situation, madame, et que nous avons la main en bas et que ce sont les autres qui doivent forcément nous donner. Il n'y a pas de les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Il faut qu'on en soit conscient et arrêter de dire, par exemple, que si la digue saute ici, que là-bas, ils vont avoir des problèmes. Non, parce qu'eux, ils ont des doubles et des triples digues autour d'eux. Absolument. La digue, c'est nous d'abord. Il n'y a pas de digue. Je ne me souviens plus, mais je l'ai vu quelque part. D'accord. Voilà.
Oui. D'accord. Alors, M. Bokoum, selon vous, quelles sont les stratégies en cours pour prendre en compte les spécificités des différents pays membres?
Non, il n'y a pas de stratégie particulière pour prendre les spécificités des différents pays membres. Parce que, en fait, nous réfléchissons en deux temps. Le problème sécuritaire et le problème économique. Et le troisième point, c'est la gouvernance. Et la mauvaise gouvernance, nous la partageons en commun. Donc, du coup, si vous ne résolvez pas le problème de gouvernance, tous les autres problèmes deviennent insolvables. C'est ça la triste réalité. Oui. Aujourd'hui, on est en train de penser qu'en faisant la guerre, en prenant des armes, qu'on résout le problème. Alors que dans le fond, la cause, parce que même quand vous regardez dans l'histoire, les deux premières guerres mondiales, c'est quoi? C'est des crises économiques. Alors quand vous étouffez quelqu'un, vous l'empêchez de vivre, vous empêchez d'être dans son terroir, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est prêt à mourir. Aujourd'hui, Bamako est inondé par des gens, alors que nos villages sont en train de se vider, alors que c'est là-bas qu'il faut produire. Alors, donc, si vous ne ramenez pas la gouvernance dans une posture où, effectivement, on va vers l'économie réelle, où on va vers la production, où on va vers des valeurs de bonne gouvernance, tout le reste devient quaduque. C'est ça la triste réalité. Parce que chaque fois, les gens seront frustrés, ils vont réagir. Au début, on nous parlait du problème du Nord. Quand on a essayé de tirer la sonnette d'alarme, on nous dit que non, vous êtes trop alarmiste, ça concerne les Tamachèques, les Touaregs. On rentre au centre, on nous dit que non, c'est un problème de Bozo, de Sonrey ou je ne sais quoi. Et aujourd'hui, c'est Bamako qui est carrément pris à la gorge. Donc il faut qu'on arrête à un moment donné, qu'on comprenne que le problème de sécurité, ce n'est pas par rapport à une zone, c'est global. Et c'est la gouvernance qui pose problème.
D'accord. Direz-vous aussi que tous ces pays-là font face aux mêmes réalités ?
Ce qu'il a dit, c'est ça. En filigrane, ce sont les failles de gouvernance de chaque État qui sont exploitées par les réseaux criminels, les groupes terroristes. Donc, partout où il y a des failles de gouvernance, la criminalité et la menace liée à l'extrémisme violent prospèrent. Donc, c'est ce qu'il a dit.
D'accord. Et vous, M. Cher?
Non, c'est ce que je dis. Je veux dire, on vit une crise, par exemple, lors du Mali, je le dis souvent. Dans l'histoire de l'humanité, pour obtenir la réunification d'un pays, on n'est jamais passé par les négociations. Il y a eu deux cas qu'on connaît. Il y a le cas du Vietnam, ça c'était la force. Il y a l'effondrement, le mur de Berlin. Je suis persuadé que moi, si on veut vraiment réussir, que ce soit dans le Nord, que ce soit dans le Sahel, c'est la même chose, c'est pas la gouvernance que nous allons nous en sortir. Cette gouvernance n'existe pas pour le moment. Nous avons une mauvaise gouvernance de nos États. J'étais à Ouaga récemment et j'expliquais qu'il faut mutualiser par exemple notre système de sécurité et de défense. Lorsque le Burkina achète 4 hélicoptères mardi et que le Mali le jeudi achète 4 hélicoptères, c'est du gâchis. Parce que la menace étant transversale, il faut des solutions transversales. Peut-être qu'au moment où le Mali achète des hélicoptères, le Burkina devrait acheter autre chose et qu'on mutualise quand même nos forces.
Mais pensez-vous cela possible ?
Ah, bien sûr, pourquoi ? On rêve de l'unité africaine, madame. On rêve de. Si vous êtes de la CEDEAO, vous pouvez aller séjourner 90 jours au moins, la libre circulation des biens des personnes. Donc c'est un problème de gouvernance. Car lorsque nous avons notre 5 chefs d'État qui vont, par exemple, à New York, pour faire des économies, ils peuvent prendre un vol. Ouais. Mais si quelqu'un se considère comme roi, l'autre comme prince, l'autre comme empereur, et que chacun doit avoir sa flotte, ça ne fonctionnera pas. Ce sont des choses simples, banales, dont on parle, mais qui peuvent imprimer un rythme. Et si vous voulez donner l'exemple, si vous voulez commander des gens, il faut donner de l'exemple. Et là, nous n'avons pas ces exemples dans nos pays. Bon, à part un cas. Bon, quand je dis à part un cas, ça me permet de m'en sortir. Hein, voilà.
D'accord. Non, je suis entièrement d'accord avec M. Daniel, parce que vous regardez un pays comme la Corée du Sud. Ils n'ont pas de ressources.
Pas du tout.
Et en 79 tout près, je pense que ce pays recevait des dons du Libéria. Et aujourd'hui, voilà un pays qui pointe. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'ils ont compris le problème, ils ont dit non, la corruption, c'est terminé.
Le Premier ministre détourne l'argent, on l'enferme. Alors, n'importe qui détourne, on l'enferme. C'est automatique.
L'enseignement, oui, l'enseignant a été révalorisé. Et pour être enseignant dans ces pays, ce n'est pas n'importe qui peut être enseignant. Parce que c'est là la vitrine, c'est là le modèle. Aujourd'hui, l'enseignant, c'est qui au Mali ? Dans nos pays, c'est quoi un enseignant ? Excusez-moi, c'est un moins que rien. Donc c'est le voleur qui est un arriviste, qui est le miroir de notre société aujourd'hui. Donc tant qu'on ne reprend pas ces choses-là en main, qu'on mette les choses à leur place, un chercheur reste un chercheur, un enseignant est un enseignant qu'il faut valoriser. Les intellectuels, il faut les respecter. Et dans ces pays, on ne respecte pas les intellectuels. Je vous prends l'exemple de l'accord de paix qui a été signé. Aucun intellectuel malien n'a été appelé pour participer à l'élaboration de ce document. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il contient. Ok, vous l'avez signé. Aujourd'hui, on est dans un problème d'application. On a des soucis encore. Les experts maliens ne sont pas consultés. On n'écoute personne. Les économistes maliens, on ne les invite pas à la table. Le peuple, on ne l'écoute pas. Mais comment vous voulez gouverner ? Vous apportez des découpages, des trucs où vous ne parlez pas à votre peuple. Comment vous voulez gouverner si on n'écoute pas les gens ? À un moment donné, ce paragraphe d'entente nationale qui figure dans l'accord, il faut que les gens se parlent. Comment chacun peut évoluer ? L'opposition est par là, on ne sait même pas quel schéma ils ont. Le président, il est de l'autre côté, on ne sait pas lui aussi quel schéma il a. Une société civile rachetée par les deux camps qui se divise entre eux. Mais finalement, on ne sait pas où va le pays. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas dans quelle direction on va. Donc, je reviens encore au problème de gouvernance. Tant qu'on n'a pas un État structuré, un État qui réponde réellement au nom d'un État, nous ne nous en sortirons pas du tout.
D'accord. Alors, Monsieur Dakono, nous allons parler de la force conjointe du G5 Sahel. Mis à part les trois grandes opérations menées par cette force, on n'entend plus parler de la force. Est-ce que cela veut dire aussi que sans l'apport des communautés internationales, le G5 Sahel ne peut effectuer de petites opérations ?
Je crois que la dernière opération, elle est terminée il n'y a pas encore un mois. C'était...
Il y a eu la saison des pluies.
Voilà, il y a eu la saison des pluies. Qui ont, je pense que vous parlez principalement du fuseau centre, oui. Parce qu'il y a eu également d'autres opérations sur d'autres fuseaux. Et la force aussi, c'est une affaire de coordination, c'est une affaire de planification. Tout ne tourne pas autour des opérations qui doivent être remises dans un cadre plus constructif. C'est-à-dire que la force, ce sera comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Donc, elle doit intervenir dans un environnement assez complexe, combattre une menace pour laquelle les communautés elles-mêmes sont souvent actrices. Donc, il est important que les opérations, l'intervention de la force soit mesurée et que ça ne soit pas un facteur d'exacerbation de rapports assez compliqués entre les communautés et entre les communautés et les forces de sécurité. Donc je pense que le tout n'est pas, comme Serge aime le dire, la photo sur les opérations, mais c'est l'efficacité des opérations et surtout le fait qu'elles ne contribuent pas à complexifier quelque chose d'assez complexe.
Et pour parler de la délocalisation du QG du G5 Sahel,
je crois que il y a eu beaucoup d'écritures, on a longuement épilogué sur ça, les avis sont partagés. Je pense que le fait que la force ou le commandement soit assez varié était symbolique. D'aucuns avaient voulu même qu'il soit le commandement à Menaka. Cet avis est beaucoup plus partagé. Mais bon, encore une fois, le terrain commande toujours les réalités ou les mesures politiques.
Et l'aspect à ce que le QG soit à Bamako, comme M. Serge l'a dit.
Ce qui est mis en avant par ceux qui ont fait demander le transfert du QG à Bamako, c'est les impératifs d'abord de communication. C'est pas comme si on ne peut pas d'un revers de main rejeter tout ce qu'ils ont dit. C'était des impératifs de communication. Le bâtiment qui abritait la force assez variée a été complètement détruit. Bon, pas complètement, a été détruit, une destruction importante. Et il y a aussi les soucis de communication qui ne sont pas les mêmes que l'on soit assez varié ou que l'on soit à Bamako. Ce qui me permet de dire d'ailleurs que c'est l'une des questions également qu'on doit résoudre. Les disparités de développement, d'accès aux infrastructures entre les communautés périphériques et les communautés établies dans les capitales. Et ça me permet peut-être de revenir à cette proposition de plan d'investissement prioritaire du G5 qui prévoit une compagnie aérienne qui peut paraître un peu très ambitieux, mais le fait de pouvoir penser à une route qui relierait N'Djamena à Nouakchott en passant par toutes les villes qui sont autour serait une bonne chose et pourrait peut-être réduire dans le fossé qui existe aujourd'hui entre les milieux urbains capitales des États du Sahel et les localités périphériques. Donc fondamentalement, si aujourd'hui on dit que le QG doit quitter Sévaré, qui est une ville, une région malienne, pour Bamako, parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures, moi je crois que le débat, ça doit être justement sur ça. Pourquoi tant de disparités entre ces localités périphériques et la capitale?
Je racontais une petite anecdote pour aller dans le même sens que lui. Récemment, les ministres françaises et allemandes de la Défense étaient à Bamako. Et donc, il y avait une rencontre dans un hôtel avec le patron du G5. Donc, photo, etc. Et puis après, on demande à la presse de sortir. Et puis donc, à la fin, donc, ils discutent tête à tête, à huis clos. Et puis, nous, on demande au chef d'État, au général mauritanien, qu'est-ce que vous avez demandé? Et moi, j'étais effaré d'entendre ce qu'il avait demandé. Il dit, nous avons demandé les moyens pour commencer. Donc, jusqu'à présent, ils n'ont pas les moyens. J'étais effaré d'entendre dire qu'il nous faut des moyens. Nous avons demandé qu'ils nous envoient des moyens. Mais ce n'est pas du tout à eux de nous envoyer des moyens. C'est nous qui devons commencer. Le Ghana élabore cette année son premier budget sans le FMI. C'est un risque, bien sûr. Mais il faut que nous prenions les engagements qu'il faut, mais qu'ils prenions les bonnes décisions, si vous voulez. Nous avons de l'argent. Vous savez que dans le G5, pour le fonctionnement de G5, il a été demandé à chaque pays de mobiliser 10 millions de dollars pour mettre à niveau ses propres forces. Mais personne ne l'a fait. J'ai vérifié ça avant de venir ici. Personne n'a mobilisé ses fonds, c'est-à-dire c'est localement.
Pourquoi?
C'est à vous de poser la question au ministre de la Défense, madame. Vous avez son direct, je le sais.
Ah bon?
Non, mais en fait, nous manquons encore une fois de plus d'État qui réfléchissent à la réflexion stratégique. Tout ce que Serge vient de dire tout à l'heure, c'est une planification stratégique. Quand vous avez une planification, vous vous doterez toujours des moyens. Quand le général dit qu'il attend les moyens, ça veut dire qu'ils ont travaillé finalement sur quoi?
Sur quoi?
C'est pas sérieux. À la limite, c'est-à-dire que nous avons fait telle ponction dans tel système économique de mon pays, du Mali, de ceci, cela, et voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Et peut-être nous attendons le complément. Mais dire que nous attendons que la France ou les États-Unis nous donnent de l'argent pour qu'on puisse protéger nos propres concitoyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste qu'on se moque encore de nous. C'est ça la triste réalité.
Et comme M. Serge l'a dit, pensez-vous que le Mali peut faire exactement comme le Ghana?
Mais bien sûr qu'on peut le faire. On peut faire mieux que le Ghana. Et on peut, vous savez, quand vous regardez un peu dans l'accord, on dit que le Mali peut être un pays prééminent. Dans la crise actuelle, le programme des Nations Unies a pensé que le Mali a suffisamment d'intellectuels et qu'à la clé, nous, on allait donner un modèle. C'est pourquoi dans l'accord, on nous parle d'architecture institutionnelle. Donc, on pense qu'on a suffisamment d'intellectuels pour mettre du contenu et être ce pays qui allait donner l'exemple aux autres pays africains que chacun devrait suivre. Parce que déjà, la crise, elle touche tous les pays africains plus ou moins. Mais on a fait confiance au Mali et dans l'accord, on a mis ces clauses pour permettre au Mali d'être le pays qui donne le modèle. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On n'en parle pas. Il n'y a pas de réflexion. On ne donne pas aux spécialistes les documents pour qu'ils étudient et qu'ils fassent des propositions. Donc, à la clé, c'est encore eux qui vont venir nous dire qu'est-ce qu'il faut faire parce que nous, nous ne réfléchissons pas. Et à l'époque, je me rappelle, un diplomate a insulté les Maliens. Il dit, mais arrêtez de faire de la léthargie intellectuelle et allez-y fouiller dans les documents et comprenez ce qu'il y a dedans. Parce qu'en réalité, l'accord ne nous emprisonne pas totalement. Il nous donne certains leviers et c'est à nous de mettre du contenu. Mais malheureusement, ça ne travaille pas. Donc, les intellectuels sont mis de côté. Les économistes sont mis de côté. Les journalistes, on ne les écoute pas. On pense que c'est des gens qui sont braqués contre le gouvernement. Et on matraque tout le monde parce que juste, on pense que tu es opposant. Non, le pays, là, nous appartient tous. Et il faut que les dirigeants, aujourd'hui, commencent à écouter le peuple. Qu'ils comprennent que nous avons des solutions. Nous leur proposons des solutions qu'ils n'écoutent pas. Ils sont à la gouvernance. Au bas de cette gouvernance, il y a des intellectuels, il y a de la matière grise au Mali et on doit les écouter, ils ont des solutions. Le cas du Ghana, quand vous prenez le cas du Ghana, c'est juste un courage politique. Si le Mali dit aujourd'hui que l'or, les 16 mines d'or que nous avons, qu'il faut renégocier les contrats, mais alors, on reprend. Si on est sanctionné parce que le contrat a été mal ficelé, les dommages et intérêts, nous allons les payer. Mais quand même, les mines, c'est chez nous. Nous pouvons créer des raffineries, nous pouvons trouver des mécanismes dans lesquels on renégocie les contrats. C'est faisable. Le Niger, avec l'uranium, ils ont rehaussé encore le niveau de négociation avec la France. La Guinée a évolué dans ce sens. Et nous, sur les 20% qui devraient appartenir à l'État malien, nous n'avons pas pu financer les 10% et les 10 autres pourcents, c'est la terre qu'on donne aux compagnies pour dire, voilà, donc le Mali n'a rien donné. Et comment vous voulez être prédominant lorsque vous ne... Serge l'a dit, c'est un rapport de force. À un moment donné, il faut avoir le courage.
Ce qui me fascine, c'est les miniers dans les mines, ils disent, quand ils font le rapport où le gouvernement dit, ils ont créé 20 000 emplois,
oui,
30 000 emplois, comme si créer 20 000 emplois,
c'était
quoi? Mais j'ai rien du
tout,
madame.
Oui, un ministre qui se présente avec un chèque de 3 milliards.
C'est une insulte, à la limite. Et nous avons effectivement ces spécialistes qui peuvent dire non, ça c'est faux, non, ça c'est faisable, non, ça c'est fait mal.
D'accord. Alors, monsieur Dakono, pensez-vous que le Mali peut être aussi courageux que le Ghana?
Ah, le Mali est un pays courageux. Ah non, Dakono.
Monsieur Dakono, pas vous, monsieur Serge.
Non, je pense que le courage à lui seul ne suffit pas. Il y a des ressorts, il y a des leviers qu'il faut pousser. Et peut-être que tout ça n'est pas réuni pour le moment, mais je voudrais quand même revenir sur l'exposé de Bokoum que j'ai entendu et qui finalement permet de comprendre toute la difficulté quand on parle de G5. Il a parlé du Mali, donc il a parlé de la belligérance qu'il a fait jusqu'à la signature de l'accord de paix entre certains représentants de certaines communautés établies au nord. Il y a le problème du centre. Donc, quand on discute avec les Maliens, je crois que la discussion va être focalisée sur le processus de paix, sur la gestion de la crise sécuritaire au centre. Quand on discute avec les Burkinabés, la question de l'ex-régiment de sécurité présidentielle va émerger au bout de 2 minutes de discussion. Donc, la gestion de cette transition politique dans le pays et son impact sur l'émergence de l'insécurité, le contrôle de cette insécurité pour qu'elle ne descende pas, vers la côte. Et ça, ce sont les éléments qui vont émerger du Burkina. Au Niger, on va vous parler de Goudoumaria, parce que vous savez, le Niger a choisi une approche un peu différente, ou refusée au Mali ici, une approche qui repose d'abord sur le dialogue avec les groupes, mais également un système de repenti à travers une prise en charge judiciaire et après insertion sociale de ces ex-personnes engagées dans les groupes armés. Donc vous voyez que chaque pays fait face à de véritables difficultés et des contraintes internes. Donc dans un tel cadre, avec des ressources limitées, encore une fois, on va venir à la question des ressources, où les dirigeants vous diront quand il faut arbitrer entre mettre 10 millions de dollars dans la force conjointe et pouvoir donner des équipements sanitaires ou reconstruire des écoles, la tâche devient très, très difficile. Donc, en fait, il y a des équilibres à trouver, des bons équilibres qu'on n'a pas pu jusque-là trouver. Peut-être, comme ils l'ont dit, ça repose sur le manque de courage, peut-être. Ça repose sur les dysfonctionnements dans la gouvernance de ces États. Mais c'est réel, et il faut le dire.
D'accord. Alors, nous revenons à vous, M. Serge, si vous voulez bien reprendre à la question. Est-ce que le Mali peut être aussi courageux que le Ghana?
Là, c'est la question qu'il faut poser aux autorités, encore une fois. Et je ne fuis pas la question, mais je vais vous dire, dans notre position, nous, bon, il est chercheur, on fait à peu près le même métier, il informe. Nous aussi, on informe. Vous êtes chercheur, vous êtes analyste, etc. Parfois, vous avez envie de faire de la politique, madame. Parce que vous dites, c'est vrai, la politique est une affaire de professionnels, mais ceux qui font la politique la font mal. Il y a un SMIC, c'est-à-dire un minimum, autour duquel, qu'on soit de gauche ou de droite, bon, il n'y a pas tellement de gens de droite au Mali, c'est une tradition de gauche, où tout le monde doit pouvoir s'entendre pour sortir de la crise déjà. Si vous voulez faire avancer le G5, vous sortez de la crise de votre pays. Ça c'est faisable et c'est pas méchant c'est banal comme propos, si vous voulez. Mais je ne vois pas pourquoi il faut fuir tout de suite, tout le temps, la réalité. Et fonctionner en termes de lui, il est pro-pouvoir, lui, voilà les intellectuels qui aiment le pouvoir, les intellectuels qui n'aiment pas le pouvoir. Non, justement. Mais Mitterrand, par exemple, c'est une parenthèse et j'en aurais terminé. Lorsqu'il a voulu quitter le pouvoir, c'est-à-dire 15 minutes avant de quitter le pouvoir, avant la passation de service, de charge, il a rencontré un écrivain, qui lui était le plus obscile. Il est mort récemment, Dormesson. Pourtant, ce monsieur, c'est un intellectuel. Mais c'est l'intellectuel qui reçoit. Ce n'est pas parce que l'autre est de droite et qu'il est contre lui. Donc, si tu voulais construire un pays, pour répondre à votre question, est-ce que le courage qu'il faut avoir d'abord, c'est de travailler avec ses fils les plus valeureux?
D'accord. Et vous, monsieur Bokoum, en termes de pistes de solution?
Oui, les pistes de solution, vous savez, c'est le dialogue. Hein. Je dis toujours qu'il faut juste se parler et se respecter. Dans ce pays, on a appris à ne pas se respecter. Et juste à voir les autres comme étant ceux qui te veulent du mal. Serge l'a dit tantôt, les intellectuels, il faut les écouter. On est président de la République, on est ministre, ça ne veut pas dire qu'on connaît plus que tout le monde. On a des charges. Et votre rôle, c'est d'être un bon manager et de chercher les personnes idoines pour vous aider à remplir ces missions. Aujourd'hui, vous voyez des chargés de mission qui viennent de nulle part, juste parce que c'est le copain à un tel ou la copine à un tel. Ils sont dans les ministères, ils sont là. Vous regardez aujourd'hui la communication de notre gouvernement. Vous avez quel genre de communication? Et pourtant, on a d'éminents spécialistes en communication. On a des problèmes sérieux, on ne parvient même pas à communiquer au monde entier. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous attendons des autres? On n'est pas capable de le faire. À chaque fois, on attend jusqu'à ce que l'étau se resserre autour de nous. Et maintenant, on fait du bling-bling pour essayer de trouver des mécanismes pour faire un trompe-l'œil, pour essayer de maquiller ce qui se passe. Non, il faut qu'on ait le courage de regarder nos problèmes en face. Et entre Maliens, on se dit, qu'est-ce qui ne va pas? Et ceux qui ont des propositions, si elles sont bonnes, on les prend. Si elles ne sont pas bonnes, on dit non. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas compliqué. Et les solutions, je sais qu'il y en a.
D'accord. Et vous, M. Dakono, M. Bokoum nous parle de réelles solutions. Et vous?
Il a parlé de communiquer sur où nous voulons aller. Moi, je pense qu'il faut d'abord identifier où nous voulons aller. Parce que l'impression qu'on donne, c'est qu'il n'y a pas d'orientation claire sur les objectifs long, moyen terme des différents... principalement au Mali ici. Donc le premier, la communication serait beaucoup plus facile si on parvient à dégager un horizon clair avec des actions claires et qui pourraient être visibles par tous les acteurs. Maintenant, les solutions à proprement
dit, sont à plusieurs niveaux. Mais ce qui est important et urgent, on l'a dit ici, on a perdu beaucoup d'années à essayer des solutions qui ne marchent pas, et finalement pour revenir à ce qui était proposé en 2012. Cela rappelle que, malgré ce qu'on dise, la diplomatie des États de la région n'est pas aussi efficace qu'il n'apparaît. Parce que c'est d'abord faire, d'un point de vue diplomatique, parvenir à faire accepter à ceux qui décident, je parle du Conseil de sécurité des Nations Unies, je parle des membres permanents, leur faire accepter que la solution, c'est ce qu'ils ont proposé depuis 2012. Ensuite, prévoir des mécanismes de financement interne par rapport aux actions de prioritaires de développement. Parce que, Serge l'a dit, on a l'impression que la main est toujours tendue, et comme un ancien dirigeant africain l'a dit, la main qui donne, la main qui dirige. Les autres États ont leur agenda, on serait obligé de le suivre, et nos priorités vont finalement devenir des urgences auxquelles on ne pourra pas faire face.
D'accord. Et vous, Monsieur Serge, en termes de solutions?
Mais moi, je n'ai pas de solution magique, parce que ce qui est simple, je pense que la force est nécessaire. Pour revenir au sujet, c'est quelque chose de nécessaire. Je pense qu'il y a une partie de nos dirigeants qui ont cette volonté d'aller de l'avant. Et tant que nous n'allons pas concevoir de manière claire, avec au début nos propres moyens, une force hybride, une force à deux visages, un visage sécuritaire et un visage de développement, nous n'allons pas pouvoir nous en sortir.
Et pensez-vous qu'on va trouver cette solution-là aussi rapidement que possible?
Si vous insistez, oui.
Alors, Monsieur Bokoum, Monsieur Serge nous dit, si on insiste, la solution sera là.
Oui.
Et pensez-vous, c'est là possible?
Non, c'est possible, parce que, comme l'a dit Monsieur Dacono, la solution, elle n'est pas militaire. Donc, il y a l'insécurité économique et l'insécurité civile qui posent énormément de problèmes. Ce qui nous ramène encore dans la gouvernance. Quand vous regardez dans le centre, vous verrez que les gens, ils ne sont pas d'accord avec l'approche de l'État. Donc, il y a souci. Quand il a parlé, par exemple, des communautés qui sont en connivence avec les guerriers, c'est tout à fait normal. Moi, vous me sachez de mon village, vous m'empêchez de cultiver, vous m'empêchez de faire mon élevage. Et Amadou Koufa, qui est censé être mon sauveur, vous l'abattez ou il vient se cacher chez moi. Écoute, je dis, mais je préfère Amadou Koufa à l'État qui fait de l'arnaque. Voilà, la solution, elle est aussi simple. Donc, il suffit que l'État joue son rôle correctement et qu'il aille dans l'équité, le tour est joué. Maintenant, si le problème, l'insécurité économique est résolue, et l'insécurité économique ne peut pas être résolue tant que nous n'avons pas des mécanismes de production, d'économie réelle et de lutte réelle contre la corruption. Et aujourd'hui, on a un mécanisme énorme qui est là, on a créé tellement de structures pour rendre le système plus lourd encore, pour encourager la corruption.
Et en ce qui concerne l'efficacité de ces structures-là, jusque-là...
Mais on encourage... Ce n'est pas vrai, ce n'est pas des mécanismes de lutte contre la corruption. Au contraire, on augmente la corruption. Parce que si vous mettez un instrument pour me contrôler, cet instrument, je vais le corrompre. Alors qu'au départ, je vole juste pour moi-même, pour juste nourrir ma famille. Vous me mettez un monsieur qui me contrôle, je dis, mais maintenant, il me faut voler doublement, et ce monsieur aussi a faim. Mais si vous parvenez à mettre... Aujourd'hui, vous pouvez, par exemple, multiplier le salaire de chaque Malien au moins par 5. Si la bonne gouvernance est là. Si vous mettez chacun à un niveau de salaire acceptable...
Attention
vous...
à l'inflation.
Oui, l'inflation on peut gérer, on peut le stabiliser si on est dans un état encore
donc
sérieux.
Donc tout cela contribuera à la piste de sortie de cette crise.
Vous savez, quand vous donnez à manger à quelqu'un, vous résolvez à 80% le problème de l'insécurité. Moi, j'ai discuté avec, par exemple, des gens qui sont de la région de Kidal, qui prennent des armes. Je leur dis, bon, écoutez, si, par exemple, il y a de l'or à Kidal, et que le chiffre d'affaires à Kidal, c'est 100 milliards par an, et on donne à la ville de Kidal 10%, ils disent, mais monsieur Bokoum, nous, on va aller dormir chez nous, on laisse les armes. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on pense qu'à Bamako, il y a un État voyou qui ne nous donne pas ce que nous voulons. Et que souvent, c'est à quelques individus qu'on le donne au nom de Kidal ou ceci, cela.
Attention
à
vos propos.
Et alors, donc, du coup, on se retrouve dans une situation où nous, aujourd'hui, on est obligé de se rebeller. Donc, s'il y a l'économie résout un certain nombre de problèmes, je suis sûr et certain que beaucoup vont abandonner les armes. Le modèle que M. Dacona a dit par rapport au Niger, c'est un peu ça. C'est que certains acceptent de désarmer et en compensation, il y a des mécanismes qui sont là pour inciter. Si un paysan qui prend les armes, vous lui donnez un champ et vous lui donnez un mécanisme. Parce que là aussi, c'est une réflexion économique. Le modèle d'agriculture qu'il faut, il faut le concevoir, il faut le mettre en place et mettre les gens dans ces créneaux. Le modèle d'élevage qu'il faut le concevoir et l'un dans l'autre, vous aurez un système économique qui sera plus viable et les gens vont avoir une occupation et ça va les éviter d'aller prendre les armes.
Merci monsieur beaucoup, mais cela met fin à ce débat sur le G5CL. Un grand merci à nos invités, Serge Daniel, journaliste et écrivain, Boubacar Boukoum, politologue, Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études de sécurité. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Noundjiré. La régie vient être assurée par Mamadou Ouattara. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri, Haloud Mouni.
Chenne Beri, Sigi Kafoba.